BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et c'est parti pour ce lundi 20 mars. Merci de nous faire confiance jour après jour et on est ravis de vous accueillir pour parler du monde de vos placements. Mais tout de suite, toute l'info éco avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
Bonjour à tous. La Banque de France plus optimiste pour l'économie française. Elle double sa prévision de croissance à plus 0,6% pour cette année. Concernant l'inflation, la Banque de France nous dit qu'elle devrait s'atténuer grâce à l'accalmie sur les prix de l'énergie. Le pic de la hausse des prix alimentaires est attendu vers la fin du premier semestre. Crédit Suisse est en train de dégringoler en bourse après l'annonce de son rachat par UBS. Le titre perd plus de 60%. UBS a annoncé hier qu'il allait débourser 3 milliards de francs suisses pour absorber sa rivale. Mais voilà, ça ne suffit pas à rassurer les marchés. La valeur entraîne tout le secteur bancaire dans sa chute en Europe. Nous le verrons dans un instant avec Antoine Larry-Gaudry. Cet accord, en tout cas, est suivi de très près côté français. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a réagi ce matin au micro de BFM TV RMC. Écoutez.
Je me réjouis de cet accord. C'est un bon accord. Pour autant, nous parlons d'une banque qui a un bilan de plus de 750 milliards d'euros. Donc, c'est une banque qui pèse lourd dans le contexte européen. Donc, nous restons extrêmement vigilants sur la réaction des marchés.
Bruno Le Maire. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'appel à l'aide des banques régionales. Selon Bloomberg, 11 établissements de taille moyenne demandent aux régulateurs de garantir les dépôts de leurs clients à 100%, donc au-delà du plafond habituel. Objectif, éviter l'effet domino après la faillite de la Silicon Valley Bank. Et toujours selon Bloomberg, la First Citizens, une grosse banque basée en Caroline du Nord, serait en discussion pour racheter la SVB. L'autre grand titre de l'actualité, évidemment, c'est le sort du gouvernement en suspens cet après-midi. Deux motions de censure sont soumises au vote des députés, dont celle du groupe indépendant Liot, une motion transpartisane qui est soutenue par la France Insoumise et également par certains députés du côté des Républicains. L'actualité des entreprises. Orange envisage de supprimer 700 emplois dans sa filiale B2B. Selon les Échos, les discussions doivent être engagées avec les syndicats. Orange Business est un peu plus concurrencé par Zoom ou Teams. Ses bénéfices étaient en repli de près de 20% l'année dernière. Et on termine avec le GIEC qui s'apprête à publier le rapport des rapports sur le climat. Les experts climat de l'ONU doivent présenter cet après-midi la synthèse de leurs travaux depuis 2016. Des travaux qui détaillent l'impact d'un réchauffement climatique de 1,5 degré sur la planète.
Merci beaucoup Faiza. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre les évolutions de cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on se connecte effectivement avec les marchés pour voir ce qui se passe après ces turpitudes bancaires du week-end.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Antoine Larry-Gaudry qui, comme chaque matin, est installé au cœur de cette salle de contrôle du CAC à Paris et qui regarde évoluer ces grands indices européens. Qu'est-ce que nous dit ce redémarrage post rachat de Crédit Suisse, post intervention des banques centrales, post voilà. Comment démarre-t-on la semaine? On a eu l'impression que du côté asiatique, c'était pas joué. Qu'est-ce qu'il en est en Europe?
Il faut s'accrocher. C'est clair qu'en avant-marché, on avait des signaux de marché extrêmement volatiles. A priori, c'était la baisse qui devait l'emporter, même une baisse prononcée. Une heure avant l'ouverture, on était en repli de quasiment 2%. Et puis là, le CAC est dans le vert. Plus 0,06%, on est à 6 929 points. Depuis une vingtaine de minutes, on sent qu'il y a une tendance positive qui s'est réinstallée après avoir touché des plus bas. Évidemment, le marché reste extrêmement volatile. On l'a dit tôt ce matin, le VIX, l'indice de volatilité américain, est repassé du côté des 27 points, ce qui reste un niveau de stress. On est au plus haut depuis ces derniers mois, un niveau de stress relativement intense. On sent de la volatilité, on sent de l'instabilité, on sent que les problèmes sont absolument pas réglés. Oui, le Crédit Suisse, effectivement, ça s'est bien passé, cela dit avec une décote absolument monstrueuse. Une vraie interrogation sur comment sont traités dans cette affaire les détenteurs de dettes subordonnées qui voient leurs actifs complètement anéantis, il n'y a pas d'autre mot. Donc tout ça a un impact d'une manière ou d'une autre sur les mêmes types d'actifs détenus par d'autres banques. Et donc tout cela, évidemment, ça envoie à nouveau le secteur bancaire en forte baisse. Maintenant, il y a ce sentiment du garde-fou, de l'arme nucléaire qu'ont sorti les grandes banques centrales là cette nuit, à savoir des lignes de swap de manière à pouvoir boucler leur bilan, ne serait-ce que de la fin de journée, des facilités pour que le système interbancaire fonctionne bien et ne se grippe pas, malgré la perte de confiance, bon, qui sera sans doute durable. Le problème n'est toujours pas réglé du côté des banques intermédiaires, du côté des États-Unis. Donc on sent que ces fragilités qui ont touché un certain nombre d'établissements, chacun pour des raisons différentes, peuvent à nouveau intervenir et occasionner de la volatilité sur les marchés, alors même qu'on est à quelques jours maintenant de la prise de décision de la Fed sur ses taux d'intérêt. Ce sera mercredi soir. Est-ce qu'elle va réussir à relever ses taux d'intérêt dans le contexte actuel? C'est une vraie interrogation de marché et les intervenants boursiers sont extrêmement divisés à ce niveau-là. Malgré tout, bon, le CAC tente quelque chose. On est en hausse de 0,15%. Même hausse d'ailleurs pour l'Eurostock 50 alors que le DAX à Francfort reste en légère baisse, moins 0,14%. Toujours une très forte pression sur le secteur bancaire, mais c'est pas non plus la perte totale de contrôle. On a une baisse de 3,2% sur la Société Générale à 20,51€. BNP Paribas, moins 2 à 50,61€. AXA, moins 1,48 à 25,59€. Et Crédit Agricole, moins 0,9 à 9,88€. Mais alors, le secteur qui, une fois de plus, va sauver le CAC 40, c'est le secteur du luxe. Avec une forte baisse des rendements obligataires, on revient sur les valeurs de croissance et on revient sur le secteur du luxe. Hermès, plus 2%, 1764,50€. LVMH, plus 1,77€. À 801,20€. On n'oublie pas certaines valeurs un petit peu plus défensives, comme Thales, plus 1,8, 129,80, Air Liquide, plus 1,52, 149,46. Sinon, un paramètre important, la très forte baisse des prix du brut. On a failli passer sous les $70 pour le Brent tout à l'heure. On s'est un petit peu redressé à 71,12. Mais c'est une des conséquences aussi de toute cette crise. Forte baisse des prix de l'énergie. À noter un autre actif qui est regardé de près, c'est l'once d'or fin qui a repassé le cap des $2000. On est au plus haut depuis l'année 2021. Et puis le Bitcoin qui n'arrête pas de s'envoler. Valeur contre-marché, valeur refuge du moment, on peut le dire, $28,000 et plus pour le Bitcoin en ce moment. Le CAC 40 plus 0,27, on fortifie la hausse, 7 944 points. Et l'euro-dollar, on est à 1,0665, Cédric.
Merci Antoine Larigauderi. Point très complet, une heure après l'ouverture à la Bourse de Paris. On continue bien sûr à s'intéresser à ces fluctuations et on regardera notamment les aspects techniques. Ce sera dans une grosse vingtaine de minutes avec nos traders, comme chaque matin, 10h30, le match des traders. Nous, on reste connectés sur ce monde action.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Grâce à Rival Handler, bonjour Harry.
Bonjour.
En ligne avec nous depuis Mescarte AM pour nous proposer un focus sur TFF Group. Tonnerry François Frère, c'est ça?
Tout à fait. Donc c'est un groupe familial qui a été créé il y a 80 ans. Donc c'est une entreprise spécialisée dans la conception, production et commercialisation de food chain, destinée initialement à la production de vins haut de gamme et plus récemment également vers le marché très porteur du whisky et du bourbon. Il est le leader mondial avec un chiffre d'affaires estimé pour l'exercice clos en avril 2023 qui devrait être supérieur à 400 millions d'euros avec une très belle rentabilité. Alors le groupe c'est un groupe mondial avec 39 sites de production dans le monde et la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui de TFF? Tout d'abord, dans le contexte actuel, c'est une valeur défensive. Et d'autre part, la semaine dernière, le groupe a publié un chiffre d'affaires du troisième trimestre extrêmement solide qui est ressorti à près de 98 millions d'euros en croissance, tenez-vous bien, de 34,5% et même de 53% sur les 9 premiers mois de l'exercice, dont 39% de croissance organique. Alors, la croissance est présente dans les deux pôles qui représentent près de 50% du chiffre d'affaires. Donc, tout d'abord, le pôle vin, qui est en progression de 30% sur 9 mois, grâce à un retour à la normale après 3 millésimes soumis naturellement aux perturbations climatiques et sanitaires. Le pôle alcool est en hausse encore plus forte, 49% sur 9 mois, grâce au fort rebond de l'activité bourbon et également de l'activité whisky qui bénéficie d'un effet prix très favorable. Alors, compte tenu de cette excellente publication, le management de la société a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice clos en avril 2023 à plus de 400 millions d'euros contre 390 millions auparavant. Et nous, on estime que cette nouvelle projection reste très conservatrice. Alors, pourquoi est-ce qu'on est positif toujours sur le titre, malgré un très beau parcours boursier sur les 12 derniers mois? C'est parce que la valorisation, compte tenu de la visibilité, reste très modérée, avec une valeur d'entreprise par rapport à l'EBIT estimée pour l'exercice de l'année prochaine de 12,5 fois estimée, contre une moyenne historique de 16 fois. Et d'autre part, le momentum est extrêmement favorable avec une visibilité sur la croissance des volumes et même une amélioration de ses marges, notamment au sein de son pôle alcool.
Et du coup, aujourd'hui, on est autour des 40 euros sur ce dossier TFF. On peut viser combien ?
Nous, on vise d'ici la fin de l'année 50 euros sur ce titre.
Merci beaucoup, Harry Vollendler, donc directeur de la gestion Action de Mescart AM, qui nous proposait ce matin cet éclairage sur TFF Group Tonnellerie François Frère, donc objectif de cours 50 euros, recommandation d'achat délivrée ce matin. Le marché parisien, lui, est en toute petite hausse. Le CAC à 6 926 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Marc Toiti qui nous attend au sein du cabinet ACDFI. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous ce matin.
Avec plaisir.
On a cette espèce de crise bancaire, de crise financière qui peine peut-être à véritablement convaincre. Comment voyez-vous les choses? Les choix de Crédit Suisse, de l'UBS, le choix des banques centrales, les réactions de marché, comment l'économiste que vous êtes ausculte un peu tout ça?
Ben, la crise, justement, elle séduit, entre guillemets, c'est-à-dire que les marchés n'arrivent pas à imaginer l'après. Je me souviens avec vous, du face-à-face, je vous ai parlé de Crédit Suisse il y a quelques semaines, ce qui se passe aujourd'hui. Bon, alors, le problème, c'est que les autorités essayent d'intervenir, mais je pense que le mal est fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut payer aujourd'hui les excès du passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, soit pour Crédit Suisse, pour les banques américaines et autres, il y a eu, trop d'excès, trop de crédits un peu distribués n'importe comment, parce qu'on avait de l'argent gratuit, hein, tout simplement. Et ben maintenant, aujourd'hui, il y a une sanction qui est là, et donc qui va durer. Hein. Je voyais sur la First Republic Bank, vous savez, c'est la petite banque américaine qui risque de faire faillite dans les prochains jours. Il y a les 30 plus grandes banques américaines qui ont, les 11 plus grandes banques américaines qui ont annoncé qu'elles allaient injecter 30 milliards de dollars dans cette banque en dépôt. Et malgré tout, le cours boursier de cette banque a continué de baisser vendredi dernier. Donc, là, je regardais en 5 jours, le cours de l'action a fait moins 81,3%. Donc, ça montre bien que les autorités essayent de faire quelque chose, mais ça ne prend pas. Les marchés continuent de s'inquiéter parce que, justement, je pense qu'il faut payer la facture. Et donc, le fait de, à chaque fois, de ne pas vouloir se faire mal, de faire cette fuite en avant est extrêmement dangereux. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui ne paye pas. Et donc, on voit des mouvements un petit peu bizarres. On voit le Bitcoin qui flambe, etc. C'est incroyable parce que, à la guerre sur les banques, il y a quand même une garantie des dépôts, ce qui n'est pas le cas évidemment sur le Bitcoin par exemple ou les crypto-monnaies. Mais bon, si on veut s'amuser, donc voilà, je pense que le marché aujourd'hui redevient entre guillemets complètement fou, et parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et je pense que le gros problème, c'est que les dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue monétaire, d'un point de vue budgétaire et public et politique, eh bien ne rassurent pas, ne sont pas crédibles, et c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant pour l'avenir.
Voilà donc première réaction, hein, Marc, sur ces questions-là. Après, il y a nos banques centrales. Alors, on a vu la BCE la semaine dernière qui a choisi de rester droite dans ses bottes et d'asséner 50 points de base, alors que certains avaient estimé que les 25 auraient pu prévaloir. Et puis là, on se retrouve avec notre réserve fédérale. Dernier discours en date, on va dire, nous emmenait vers le 50 points de base aussi. Selon vous, que peut faire, que va faire la Fed?
Il y avait déjà une discussion, hein, c'est-à-dire je pense qu'on va être sur 25 points de base. Et là, on voit le piège dans lequel sont bloquées finalement les banques centrales. C'est-à-dire que si elles ne font rien, c'est-à-dire qu'elles vont laisser filer l'inflation, et si elles arrêtent d'augmenter leur taux d'intérêt, eh bien à ce moment-là, il va avoir donc justement une inflation qui va augmenter, et si elles augmentent le taux d'intérêt, eh bien, ça risque d'avoir d'activer la crise bancaire. Donc c'est un peu le paradoxe qu'on a aujourd'hui, et encore une fois, ce piège, c'est elles qui l'ont créé, hein, ce sont les autorités monétaires qui l'ont créé en laissant filer l'inflation, et finalement en laissant cet argent gratuit, ces bulles s'alimenter. C'est ce qu'on paye aujourd'hui, il faut bien prendre conscience, et donc c'est effectivement les banques centrales sont obligées de réagir, il faut qu'elles remontent les taux d'intérêt parce qu'il y a toujours de l'inflation. Regardez ce matin, on vient d'avoir les chiffres des prix à la production en Allemagne, c'est reparti à la hausse. Donc ceux qui disent ça y est, l'inflation c'est fini, c'est vrai que les matières premières ont tendance à baisser. Vous voyez l'inflation en Allemagne, les prix à la production ce matin 15,8%. Donc ça reste quand même très très élevé. Donc ce qui veut dire que même s'il y a je dirais un peu moins d'augmentation des cours des matières premières, on a quand même une inflation qui est là, et donc les banques centrales sont obligées d'augmenter leur taux d'intérêt, sinon alors elles sont plus du tout crédibles. Simplement, je pense que la Réserve fédérale américaine va faire un petit pas, hein, 25 points de base, parce que bien entendu, si demain on a une très grave crise financière, on ne pourra pas continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ça sera un peu la double peine. On va avoir malheureusement une crise financière qui risque de s'installer, et l'inflation également qui va rester. Alors repartira à la baisse, mais à cause de l'inflation, de la récession qui va se produire dans les prochains mois. Donc c'est quand même un contexte assez compliqué, et si je peux me permettre, j'en veux quand même pas mal à nos dirigeants politiques et monétaires, parce que ils ont fait qu'à leur tête, ils n'ont pas suivi, je dirais, le bon sens, tout simplement. Ils ont laissé filer l'inflation, ils ont laissé les bulles gonfler, et maintenant ils sont pris la propre piège.
Lecture assurée ce matin par Marc Toiti depuis le cabinet ACDFI. Merci Marc d'avoir été au rendez-vous ce matin. Le marché parisien, lui, il est revenu un peu sur son niveau d'équilibre alors qu'on avait démarré dans le rouge et même un peu nettement, revenant ce matin sur des niveaux de 6000, enfin juste sous les 6800 points dans le sillage, c'est vrai, des places asiatiques qui avaient peu goûté à ce scénario bancaire. On va voir un petit peu ce qui se passe dans le reste de la journée. On se donne rendez-vous d'ici un petit quart d'heure avec nos trader.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Marie-Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour Cédric.
On reparle de la réforme des retraites.
C'est le jour J.
Ses effets sur l'accès à l'immobilier. Vous nous aviez déjà dit qu'avec potentiellement 2 années de vie active supplémentaire, on allait y gagner en termes de capacité d'emprunt. Le problème, c'est qu'on va perdre de l'argent ailleurs.
Et oui, vous le savez, puis on va en parler après. Hein, à chaque fois que vous prenez un crédit immobilier, souvent, enfin la quasi-totalité des fois, vous avez une assurance de prêt qui va avec. Et forcément, si vous travaillez 2 ans de plus, vous avez aussi des potentiels sinistres supplémentaires pour les assureurs avec des arrêts de travail. Et puis alors, on en a un petit peu plus peut-être aussi en vieillissant. Et donc, il y a une problématique autour des tarifs de notre assurance de prêt qui va risquer d'augmenter. Alors aujourd'hui, les assureurs n'ont pas acté et cette prise en compte des 2 années supplémentaires de travail, mais on a le comparateur Magnolia qui s'est amusé, je mets de gros guillemets, à imaginer dans quel ordre pourrait être cette hausse de tarifs de l'assurance de prêt. Alors chez Magnolia, on parle de 2 à 5%. Alors souvent, quand je vous dis 2 à 5%, je vous dis ça a l'air de rien, mais et ben là, en fait, c'est plutôt pas grand-chose. Alors, on va essayer de donner un exemple très précis. Donc, un quarantenaire qui emprunte 300 000 euros sur 25 ans, au total, sur toute la durée de son crédit, ça va représenter 500 euros de plus sur toute la durée de son crédit. Bon. C'est pas si énorme que ça. Alors, faut quand même savoir que forcément, ce coût-là sera évidemment bien supérieur si vous êtes un emprunteur avec des problématiques de santé, des affections de longue durée, etc.
Bon, et pour quantifier un peu tout ça, ça va concerner tout le monde ou c'est au cas par cas ?
C'est une vraie question parce que c'est vrai que dans le monde de l'assurance, je pense qu'Emmanuel Provost ne me contredira pas, mais c'est que souvent on a tendance à mutualiser les risques. Bon, là, a priori, ce qu'on nous dit, c'est qu'a priori, ce serait vraiment au cas par cas. Donc, en l'occurrence, je vous ai donné cet exemple-là. Pourquoi ? Parce qu'on serait sur des gens pour qui l'emprunt courrait passé 62 ans. Donc des gens qui empruntent après 40 ans. Mmh. Donc, certes, ça va concerner finalement assez peu de primo-accédants. En revanche, vous avez tout le lot des secondo-accédants ou des investisseurs qui font donc de l'investissement locatif qui, eux, quand vous regardez la moyenne d'âge, ont souvent 40 ans et plus. Donc ça va les concerner, eux, mais vous l'avez compris, le surcoût ne sera pas énorme. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que si en parallèle, vous avez peut-être un petit surcoût à prévoir lié à cette réforme des retraites, si elle est véritablement adoptée, je mets toujours des si, vous avez vu, d'autant qu'on rappelle que, oui, ce marché, finalement, il bouge beaucoup. Donc vous allez peut-être perdre un petit peu quelques centaines d'euros sur ça, mais en même temps, vous pouvez en gagner plusieurs milliers sur votre négociation, puisqu'on le rappelle, désormais, vous pouvez renégocier à n'importe quel moment. Votre assurance de prêt est passée à la concurrence. Je vous rappelle, hein, en moyenne, c'est pas quelques centaines, hein, c'est 10, 15 000 euros d'économie en passant chez les assureurs alternatifs, donc ça vaut le coup. Je rappelle juste d'un mot que la seule obligation quand vous changez d'assurance de prêt, c'est que votre nouvelle assurance de prêt doit comporter au moins autant de garanties que la précédente. Voilà, mais je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement avec Emmanuel.
Et oui, puisqu'on accueille ce matin Emmanuel Provost. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cédric.
Directeur général d'AFI Esca Patrimoine. Bon allez, on brosse un petit peu le panorama crédit, assurance emprunteur. Justement, qu'est-ce qu'on se dit en ce moment? Quelle est la tonalité? Quelle est l'ambiance?
Je vais peut-être rebondir sur ce que disait Marie tout de suite, parce que le sujet est intéressant.
Souvent.
Et très souvent. Mais là, je vais peut-être être un peu iconoclaste, parce que, ou alors amener une relative bonne nouvelle, c'est que, notamment chez AFI Esca, on n'envisage pas d'augmenter les prix.
Pour l'instant ?
Même à terme, parce que il y a un phénomène qui est important de prendre en compte, c'est que lorsque vous travaillez, vous êtes dans un état de santé équilibré, d'accord, et que vous travaillez jusqu'à 62 ou 64 ans, en réalité, on sait qu'il y a des événements dans la vie qui déclenchent des états de santé un peu dégradés. Et la retraite en fait partie. C'est-à-dire que si vous prolongez de 62 à 64, vous êtes en activité professionnelle et donc vous allez relativement bien.
Finalement, et votre état de santé, statistiquement, vous pensez que ça nous protège, finalement, travail nous protège ?
Eh bien, on considère, oui, que ça va protéger et que, en tout cas, ça va pas créer un déséquilibre. Et comme les assurances de prêt en général sur les invalidités temporaires de travail vont jusqu'à 64, 65 ans, bon ben c'est quelque chose qui est prévu. Donc a priori, on n'envisage pas d'augmenter les prix.
Bon ben ça c'est une bonne nouvelle. Après, on sait que les tarifs, ils ont déjà un peu augmenté chez les assureurs alternatifs.
Ah, ils ont déjà un peu augmenté en raison de la loi Lemoine, hein, qui nous a obligé, c'est bien pour le consommateur à ne pas sélectionner médicalement à l'entrée les gens qui empruntaient moins de 200 000. Donc les prix ont relativement augmenté, oui, 15-20%. Après il y a eu un équilibrage. Après il y a d'autres raisons pour lesquelles on pourra peut-être le voir après. On est un peu stoppé en assurance de prêt.
Bon alors justement, voilà. On en est où là du marché?
Y a-t-il des bonnes nouvelles aujourd'hui?
Dans le monde bancaire, vous voulez dire?
Non, parce que je vais pas apporter non plus d'excellentes nouvelles. Hein. On est très corrélé au marché immobilier, hein, donc vous n'êtes pas censé ignorer. Alors, j'ai entendu une information, enfin, une interview de Philippe Brassac, le patron des banquiers, ce week-end sur une radio, qui disait, mais pourquoi vous nous accusez de pas accepter les dossiers de financement, mais en fait, nous, on en accepte autant qu'avant. C'est juste qu'ils s'en présentent 40% de moins. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que les courtiers qui travaillent dessus, en général, les présentent pas parce que, en raison de tout ce qu'on a dit en 2022,
le taux d'usure,
ils savent que ça passera pas. Donc, oui, c'est une façon d'interpréter les choses, de dire, non, les banques, on est toujours là, on vous soutient, mais bon, voilà. Après, les banques sont dans le même état que nous, hein, c'est-à-dire que, au niveau des assurances, elles ont plutôt intérêt à brancher leur assurance de groupe. Parce que pour faire un peu de marge.
Oui, d'autant que les tarifs des assureurs, des assurances banques, ils restent quand même plus élevés que chez les assureurs alternatifs pour aujourd'hui.
Voilà, ils restent quand même plus élevés, ce qui nous permet quand même de faire quand même quelques affaires, hein, tous les ans. Mais là, par exemple, en ce qu'on appelle en loi Lagarde, c'est-à-dire dès que vous empruntez de l'argent, vous faites votre assurance de prêt, vous le faites à l'extérieur. Donc là, on a constaté chez AFI Esca jusqu'à moins 57% de baisse. Au mois de février.
En termes de volume,
ouais. Moins 57%.
On n'est plus dans l'épaisseur du trait.
Mais vous croyez que ce sont les banques, Emmanuel, est-ce que ce sont les banques qui clairement disent « Ok, je vous prête de l'argent, mais pas le droit de délégation, pas le droit de... »
Non, il y a plein de phénomènes, il n'y a pas que les banques. Hein. Il y a évidemment les taux, il y a évidemment de l'attentisme, il y a évidemment Philippe Brassac a raison aussi. Les consommateurs, ils se disent, je vais attendre. Ils se disent, c'est la crise. Est-ce que c'est bien d'acheter maintenant? Donc il y a une baisse quand même. Hein. Même si on a fait une année record en 2022.
Mais ça, Emmanuel, c'est les délégations à l'entrée dans le crédit immobilier. Ouais. Donc effectivement, ça traduit aussi une baisse du volume de crédit de l'achat immobilier. Mais on en est où au niveau des renégociations? Je le disais tout à l'heure, la loi Lemoine permet désormais de changer d'assurance à n'importe quel moment de son crédit. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un coup de frein aussi à ce niveau-là? Est-ce que, enfin voilà, comment c'était quelque chose que vous désiriez, oui. ça
Donc, Alors, eh bien, écoutez, quand même les bonnes nouvelles. Si on a constaté jusqu'à moins 50%, 57% de baisse sur les emprunts, on constate une renégo qui, elle, représente 40% ou 50% des volumes, parfois, certaines semaines.
Ouais.
Donc il y a un engouement, il y a encore du volume, il y a encore 11 milliards, il y a encore de l'argent, et puis il y a surtout une volonté, et puis franchement, on le voit en ce moment, une volonté de faire des économies, une volonté de faire gagner du pouvoir d'achat.
C'est ce que j'allais dire, finalement, c'est plutôt propice, c'est un peu cynique, mais la crise est plutôt propice à aller chercher, grappiller quelques milliers d'euros par-ci, par-là.
Tout est bon, oui. Tout est bon.
Mais... Oui. Malgré tout, vous nous dites les banquiers 57% de, enfin ou 40% de, oui. de dossiers en moins. Et vous nous dites c'est nous les courtiers qui envoyons moins de dossiers parce que on sait dès le départ de l'étude et c'est le boulot pour lequel on est là oui. que ce dossier n'ira pas plus loin si on l'envoie à la banque. Et donc on l'envoie pas. Donc du coup aujourd'hui quel bon conseil vous pouvez donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Bah, qui se disent peut-être, bah ouais, j'ai besoin de gratter à gauche, de gratter à droite, parce que c'est difficile, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelques conseils bien concrets que vous êtes capable de nous donner, enfin de leur donner, pour bien agir dans ce domaine d'assurance, de préparation d'une demande de crédit, enfin voilà.
Il y a évidemment des conseils, et c'est pour ça qu'on est aussi ici, c'est que les courtiers, justement, les courtiers en crédit, ils ont un stock de clients. Ils ont un stock. Un stock, c'est un mauvais mot, hein. Bon, ouais. Mais ils ont une réserve de clients qui ont souscrit des crédits dans le temps. Il y a quelques années, quelques mois même, avec une assurance bancaire. Aujourd'hui, l'ensemble des courtiers, dans leur majorité, se sont attaqués à la renégociation. C'est-à-dire que le conseil qu'on peut donner aujourd'hui à un particulier, vous allez sur Internet, vous allez voir n'importe quel courtier en crédit, vous lui dites « j'ai un vieux contrat, j'ai un vieux prêt, etc., même pas chez vous, et je voudrais le renégocier. » Donc aujourd'hui, que ce
mais
soit
vous,
sur...
Emmanuel, oui. Je vous interromps, mais vous, chez Afieska, vous n'avez pas des deals avec des courtiers, justement? Parce que j'imagine quand même que c'est votre business aussi.
Toutes les compagnies ont des deals avec des courtiers et tous les courtiers se sont équipés. Ils se sont équipés de logiciels, de CRM, de logiciels de rappel, vous savez, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors le conseil qu'on peut donner, c'est surtout, les particuliers, n'essayez pas de le faire vous-même. C'est-à-dire vous iriez sur Internet, souscrire votre assurance de prêt, et puis ensuite vous envoyez vos recommandés, et puis vous attendez, etc. Non, impossible. Impossible. Aujourd'hui, adressez-vous à un professionnel. Tous les professionnels, depuis un an, se sont équipés.
Parce que ça reste compliqué. Ouais. Juste un dernier mot là-dessus. Parce que l'idée, ouais. c'était quand même de simplifier hein, la résiliation annuelle, ouais. machin, etc. C'était compliqué. Donc là, hop, résiliation à tout moment. Et ça reste compliqué aujourd'hui. On ne peut pas changer tout seul.
Ça reste compliqué une fois que vous avez fait votre nouvelle assurance. Parce qu'il y a des procédures d'attente, des recommandés, 10 jours d'attente, etc. Et le particulier, lui. Franchement, c'est pas son job. C'est pas son job. Il est paumé. En plus, quand même, une fois sur deux, la banque va quand même vous titiller en vous disant « Ah oui, mais ça, vous devriez plutôt faire comme ça. » Et là, il est encore perdu. Donc, ça marche dans 95% des cas aujourd'hui, la résiliation infra-annuelle. Allez-y, mais prenez un professionnel. Voilà, c'est le conseil du jour.
Emmanuel Provost pour Afieska, merci d'être passé nous voir.
Merci.
Marie, à demain.
À demain.
Le marché parisien, qu'en dire graphiquement, techniquement, nos traders seront à votre service dans un instant. Pour le moment, on ne parvient pas à s'installer en territoire positif, mais on a quand même largement limité le repli. Que vont nous dire nos traders? On se retrouve dans un instant.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Difficile de dire que les déclarations qui se voulaient rassurantes des autorités et l'opération de sauvetage de Crédit Suisse soient un succès aujourd'hui au regard de la tendance sur les marchés. Que faut-il en penser techniquement, graphiquement? On retrouve deux traders qui vont nous livrer leur lecture de cette tendance. André Atouini depuis Saxo Bank et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Comment voyez-vous cet indice évoluer, Andrea?
Ah, c'est difficile. Pour le moment, on sent qu'il y a beaucoup de nervosité encore hein, quand même sur ces marchés. Elle est présente, même si on limite quand même globalement la casse. Hein. On aurait pu avoir une ouverture bien pire sur le CAC. Et pour autant, on arrive quand même à se redresser un petit peu. Alors bon, ça reste compliqué, mais on n'est pas non plus sur une dynamique de panique pour le moment sur le marché. On n'a pas décalé énormément après l'ouverture. Alors certes, on n'est pas du tout en territoire positif. Certes, il y a encore beaucoup de nervosité, beaucoup d'interrogations, beaucoup de sujets qui restent en suspens et qui peuvent porter l'indice sur des niveaux plus bas. Mais en revanche, si on regarde quand même depuis ce matin, on est encore sur un indice quand même qui malgré tout résiste. Alors on est dans une phase encore d'analyse, on essaie de digérer un petit peu les nouvelles qu'on a eues pendant le week-end, l'opération de sauvetage évidemment, les implications que cela peut avoir sur d'autres banques, notamment sur la partie obligations à risque, hein, les additional tier 1 bonds, qui est un sujet de préoccupation aussi qui peut être sur d'autres établissements financiers. Donc il faudra aussi surveiller ce dossier-là. Il y a d'autres événements à risque aussi à suivre tout au long de la semaine. On a encore la question autour justement des banques centrales. On a vu que les banques centrales sont intervenues pour améliorer les conditions de liquidité, notamment en dollars. On aura une décision qui sera prise un petit peu plus tard dans la semaine du côté de la Fed. Est-ce qu'on va poursuivre sur une logique de politique monétaire restrictive? Est-ce que la Fed va marquer une pause? Pour le moment, on est sur un scénario de 50-50. La probabilité, elle est vraiment on a une chance sur deux d'avoir une Fed qui poursuit sur sa politique de hausse de taux. Alors attention, ça a des effets négatifs et positifs des deux côtés, donc il faudra, ça aura un vrai numéro d'équilibriste pour la Fed et c'est un vrai numéro aussi d'équilibriste pour le marché d'essayer de jauger après les implications, on va dire, de cette décision de politique monétaire. Donc on a quand même une semaine qui s'annonce encore une fois très risquée. Alors déjà de voir encore une fois l'évolution au niveau du secteur bancaire, les implications que cela pourrait avoir, d'autres sujets qui pourraient émerger, et puis d'un autre côté, la décision de politique monétaire et les conséquences que cela pourrait avoir sur l'économie mais aussi sur la stabilité du système financier. Donc du coup, on est encore loin de pouvoir vraiment définir quels peuvent être les prochains niveaux du marché, qu'est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut espérer un biais plutôt positif, plutôt négatif, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, en tout cas, si on peut essayer de récupérer ou de retenir du positif ce matin, c'est de savoir, voilà, c'est de voir ce marché qui ne cède pas vraiment à la panique. On n'a pas non plus un décrochage qui est très marqué, très sévère. On a un marché qui essaie d'analyser la situation, qui essaie de peser le pour et le contre et de voir vraiment les implications. Est-ce qu'on a atteint un pic en termes de mauvaises nouvelles et de nouvelles négatives? C'est pas sûr. Et donc il faudra vraiment suivre encore une fois l'évolution de la situation au jour le jour pour voir à quel point le stress peut augmenter sur le marché. Le stress encore une fois il est présent, on voit qu'il y a de la nervosité, on voit qu'il y a de la volatilité, on voit aussi que les investisseurs cherchent à se projeter vers des actifs de refuge. On voit l'or hein, qui a progressé au-dessus des 2000$, là on est légèrement en dessous de ce niveau mais on a quand même une progression qui est assez nette. On a même une progression aussi au niveau des crypto-actifs, donc on voit qu'il y a une volonté de se porter sur les actifs refuge. Sur les devises c'est aussi flagrant, sur le yen au niveau des taux on voit qu'il y a une détente sur les rendements obligataires, donc on va sur les obligations, on essaie d'acheter des obligations d'État pour se protéger, donc il y a vraiment une notion de flight to quality qui est toujours présente et on n'a pas du tout un retour massif des investisseurs sur les actions. On peut imaginer qu'à plus long terme, si on a un décrochage trop rapide des actions et trop fort, on peut avoir des opportunités qui se créent et une volonté pour les investisseurs de venir se repositionner pour essayer de, dans une logique d'opportunisme, mais là voilà, pour le moment c'est encore trop tôt, on a une visibilité qui est pas très très forte, on a encore une fois beaucoup de sujets qui sont en suspens et qui peuvent créer du remous, du stress sur le marché. Donc c'est encore trop tôt pour espérer se replacer dans une logique de ramener le marché sur des niveaux plus soutenus qu'on a connus en début d'année avec une spirale qui était beaucoup plus positive. Donc voilà, pour le moment le stress est toujours présent, mais on n'est pas non plus sur une logique de panique. Encore une fois, on arrive à limiter les pertes ce matin et essayer de se stabiliser sur des niveaux qui sont encore acceptables.
Oui, Jean-Louis Cussac, je vous voyais faire un peu la moue quand je lançais nos entretiens à tous les trois. C'est vrai qu'il n'y a pas de panique, André a raison. L'indice, finalement, il limite, il fait même plus que limiter les dégâts. Maintenant, il y a quand même une pression très forte sur tout ce secteur européen des banques. Ce matin, il suffit de regarder, ne serait-ce qu'à Paris, hein, les scores de toutes nos grandes banques. SocGen, -5,92, BNPP, -4,57, Crédit Agricole, -3. Enfin, il y a quand même de la pression malgré un train d'action de tout le monde qui est conséquent.
Oui, mais en effet, on ne peut pas parler de panique du tout. Hein. Il n'y a pas de panique générale. C'est vraiment une confusion générale. C'est une grande confusion. Pour ma part, je n'arrive pas à être pessimiste. Du coup, j'ai payé de la BNP ce matin. Vous rendez compte, à 1h du matin, nous étions à 7000... 25, à 1h du matin à peu près. Et c'est l'Asie qui a mal perçu le fait que les obligues Crédit Suisse valent zéro, quoi. Donc il y a eu là, à ce moment-là, une réaction vraiment négative, d'aversion au risque, et on est revenu fracasser les bancaires, mais à part ça, LVMH gagne plus d'1%, L'Oréal gagne un 60, Air Liquide un 40, donc il y a les bancaires d'un côté et le marché de l'autre. Ce qui me fait vraiment penser qu'il n'y aura pas de sell-off sur le marché, qu'il n'y aura pas de panique sur le marché. Maintenant, ils ont mis des moyens, ils ont injecté des liquidités d'une manière très conséquente. Aux États-Unis, partout, au Crédit Suisse, là, ils ont mis les barbelés vraiment de tous les côtés. Donc, normalement, ça devrait être contenu. Voilà. Sur le plan technique, soit il faut ne rien faire, soit on avait déjà, pour notre part, on avait acheté des calls, des puts, on s'était dit, bon, la voile avait baissé, on va en profiter. Bon, bah là, c'est un coup de chance dans le fait que bah, ça nous permet d'acheter, de vendre et de faire des opérations parfois qui s'inscrivent pas en fait dans un directionnel, puisque vous avez des écarts de 200 points parfois de quelques heures, avec quelques heures d'écart. Donc on peut même pas dire que la tendance est baissière. Alors on est baissier, on a vendu, on travaille avec un seul vendeur, oui peut-être, mais en fait on achète autant qu'on vend, et depuis ce matin j'ai fait les deux. L'idée c'était quoi? C'était de dire qu'on était vendredi, on est parti vendeur. Alors ok, tant mieux, mais très léger. Il faut pas avoir de regrets, c'est comme ça. Je vous dis, on était à 7027 à 1h du matin, on se retrouve à 6008 à 9h du matin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se faire un plan tranquille, d'essayer. Moi, je pense qu'il faut aller à la chasse aux bonnes affaires. Et puis, se dire que le pire, c'était quoi? Dans le scénario, c'était 6760. Bon, on a fait 6008. C'est pas loin, c'est bon. Pour l'instant, sur le plan technique, on a épuisé, si vous voulez, une vague de baisse. Vraiment. Donc, on peut en rester là. C'est tout à fait possible. Donc, moi, j'ai abaissé mon niveau, si vous voulez, à partir duquel je vais passé neutre. Donc auparavant c'était 7280, j'ai abaissé ce niveau à 7130. Donc vraiment je l'ai rapproché d'une manière très conséquente. Et voilà, donc on va un peu réagir, si vous voulez, d'une manière opportuniste. Mais je pense que globalement, il y a zéro raison de paniquer. Il faut peut-être pas exagérer. De paniquer, zéro raison. De s'inquiéter et d'être prudent, bien évidemment.
Juste, Andrea, Jean-Louis, le mot qu'il faut avoir en tête, vous l'avez employé tous les deux sous un vocable différent, donc mettons-le bien en avant ce matin sur BFM Business, c'est AT1, c'est ça. Ce sont ces questions sur ces obligations qui posent le vrai problème, Andrea, très rapidement.
Oui, globalement, c'est vrai qu'on a d'autres banques qui ont des positions sur ces obligations-là, et on peut avoir un risque, du coup, d'avoir des scénarios similaires sur d'autres banques. Après, il n'y a pas aujourd'hui de, on n'a pas d'information qui est on n'a pas une information. Voilà. C'est ce sujet-là, en tout cas, qui pose problème ce matin, qui a généré du stress sur le marché, et qui fait qu'on a des valeurs bancaires qui sont en berne par rapport à d'autres valeurs, comme l'a dit Jean-Louis, des valeurs qui se portent très bien, mais c'est vrai que les valeurs bancaires aujourd'hui, elles sont chahutées. Après, on a eu une baisse qui a été beaucoup plus prononcée sur BNP, qui a déjà repris, d'ailleurs, du terrain pour le moment. Donc là aussi, il y a quand même de la volatilité et une analyse qui est faite en ce moment par les investisseurs qui n'ont pas complètement digéré les annonces qui ont été faites pendant le week-end sur l'opération Crédit Suisse UBS. Donc il faut être encore patient et garder, on va dire, un petit peu ses nerfs, analyser la situation avec calme avant de se précipiter.
Bon, on se retrouve tout à l'heure. AT1 aussi, c'est ça qu'il faut avoir en tête, Jean-Louis, on est d'accord?
C'est ça. Non, mais c'est vraiment. Ouais. Bah, je voulais pas rentrer dans
le technique. Non, mais c'est intéressant,
si vous voulez,
d'avoir
l'impact psychologique.
Le mot.
Sur les obligations.
Ouais. Merci à tous les deux, en tout cas. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Andrea Twenny, qu'on retrouve tout à l'heure depuis Saxo Bank, le marché parisien, pour le moment, qui est quasi étal.
BFM Business. BFM Patrimoine. La polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
UBS, donc, première banque suisse, rachète Crédit Suisse pour 3 milliards de francs suisses. C'était une bonne nouvelle?
Ah ben c'est une bonne nouvelle. Le contraire, c'était la mauvaise nouvelle. Mais le vrai sujet, et j'en prends conscience depuis quelques heures seulement, c'est ce dont vous venez de parler, là, sur ces obligations quasi fonds propres des banques. Le message envoyé par la Suisse, c'est vous risquez moins en détenant une action Crédit Suisse qu'une obligation Crédit Suisse. C'est un autre monde. Donc là, effectivement, on vient de mettre la main dans quelque chose. Si le financement par la dette en fonds propres des banques la prime de risque s'envole à cause de cette décision. On a ouvert un chapitre complexe. Mais effectivement, oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, UBS rachète par échange d'actions 3 milliards de francs suisses. Alors, c'est 3 fois moins que la valeur de la semaine dernière, évidemment. Donc, c'est super décoté. D'ailleurs, avant bourse à Zurich, Crédit Suisse perdait 60 et quelques pourcents. Et le gouvernement, les autorités suisses, jusque-là, pour l'instant, ont plutôt bien agi. Puisqu'il y a des montagnes de liquidités qui ont été mises à disponibilité parce que les autorités et les banques centrales savent gérer un problème de liquidité. Elles sont là pour ça. Et donc, elles ont la possibilité de gérer le problème de liquidité. On est sur 200 milliards de francs suisses, ça fait autant en euros, hein, de liquidités mises à disposition par les autorités et par la banque centrale. Et le gouvernement, en plus, qui a apporté 9 milliards de francs suisses de garantie à l'opération UBS Crédit Suisse. Donc, on voit que ce qui se passe en Suisse, c'est un peu aussi ce qui se passe aux États-Unis. On a eu le sauvetage d'une banque par tout un panel des plus grandes banques américaines la semaine dernière. Et là aussi, les autorités sont à la manœuvre. La banque centrale est à la manœuvre. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, tout est mis en place pour éviter une panne de liquidité, parce que c'est l'assèchement de liquidité qui emmène les banques au tapis. Bon. Après, il y a cette histoire d'obligations qu'il va falloir suivre de très très près. Hein.
Donc, le choc bancaire est sous contrôle et on va dire, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui nous guettent.
Alors, évidemment, c'est précipité de dire ça. C'est pourtant le discours encore de François Villeroy de Gallo ce matin. De dire les banques européennes et françaises sont solides. Le cas américain est très différent. On avait des banques qui échappaient aux régulateurs en dessous de 250 milliards de bilan, ce qui est vrai. Toute autorité politique et institutionnelle ne peut pas dire le contraire. Et il est vrai que depuis 2008, on a considérablement renforcé la surveillance sur les grandes banques systémiques. Il est vrai que SVB a des caractéristiques SVB, qui font qu'il n'y a pas de raison d'imaginer que ça va se propager à l'ensemble du secteur bancaire, sauf que tous les clients des banques de taille à peu près similaire à SVB aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font depuis une semaine? Ils essayent de vider, de quitter leur petite banque pour aller vers une grosse, parce que tout le monde flippe un petit peu, comprenant que depuis 2017, on a passé le seuil de régulation de 50 milliards de dollars de bilan à 250 milliards de dollars de bilan, sous le lobbying gentiment orchestré par ces mêmes établissements bancaires d'ailleurs, notamment le président de SVB. C'est vrai que Crédit Suisse aussi qu'il a une taille mondiale, il y a un cas Crédit Suisse, il y a eu des scandales, il y a eu des raisons propres à Crédit Suisse qu'on n'a aucune raison d'imaginer dans une autre banque.
Oui. C'est chez vous, je crois, dans les experts que Subran a dit, le dicton dit que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient nus, et Crédit Suisse, ça faisait un moment qu'ils se baladaient tout nus sur la plage.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que quand la mer se retire, la mer qui se retire, c'est les taux qui montent. Et donc, on n'a pas, c'est vrai, tous les éléments constitutifs de 2008 avec effondrement de l'immobilier, avec dissémination de produits complètement pourris à travers la planète, avec problème de solvabilité. Ces produits, en fait, étaient insolvables et c'était pas de l'illiquidité. Mais voilà, on est devant la fin d'un monde impossible où votre banquier vous payait pour vous prêter de l'argent. Donc tout ça a entraîné des excès en tout genre, des bulles en tout genre.
Donc en fait, on paye ces années justement où le bol de sangria était posé sur la table et où toutes les banques l'alimentaient en permanence pour que personne ne manque.
Il y a de ça, il y a vraiment de ça. Alors les banquiers centraux qui ont fabriqué cette situation en créant cet open bar pendant des années, j'ai envie de dire que s'ils n'avaient pas fait ça, je ne sais pas comment on finissait la crise financière, comment on passait Covid, par exemple. Mais oui, il est certain que quand l'argent coule, eh bien dans ces cas-là, on a tendance à aller chercher du rendement là où les obligations n'en rapportent plus, non plus de rendement, donc on va chercher du rendement ailleurs. Et en allant chercher du rendement ailleurs, on peut se retrouver être dans des positions de risque excessives. Et quand à ce moment-là, les conditions de marché se resserrent, c'est là où le ton change. Mais il est quand même vrai que nos banques, notamment en France, présentent aujourd'hui des bilans solides bien plus qu'en 2008. Et il est vrai aussi que les États comme les banques centrales sont hyper réactifs bien plus qu'en 2008. En 2008, c'est le politique qui lâche le secteur bancaire. En 2023, c'est le politique qui intervient presque en amont, puisque il y a exactement une semaine, dimanche, il y a une semaine, c'était les autorités américaines qui décidaient de fermer une banque préventivement. Donc on n'est pas dans le même contexte. Pour de là à dire que on est tous très sereins, quand même pas.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Nous tout de suite on jette un œil sur ces marchés financiers.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Les marchés, qui se cherchent. Hein. On essaye effectivement, Jean-Luc Cussac nous disait, il y a le marché puis il y a le secteur bancaire. Bah, c'est un peu ça. Ce matin, on a des dégagements encore sur Soggen, sur BNPP, sur Crédit Agricole. Toutes ces valeurs perdent plus de 2,5% grosso modo. On va jusqu'à 4,4% de repli sur Société Générale. Et puis de l'autre côté, on a d'autres titres comme Thalès, comme L'Oréal, comme Air Liquide, comme Hermès. Et là, bah, on grimpe de plus d'1,5 et quelques pourcents sur ces titres-là. Voilà, une espèce de marché à deux vitesses à Paris. Ça nous donne un CAC qui hésite sur son niveau de clôture de vendredi soir, 6921 points. Du côté des devises, on est en ce moment à 1,0662 et puis il y a aussi pas mal de mouvements sur les matières premières, de la baisse du côté du pétrole et de l'énergie et de la hausse du côté de l'once d'or qui flirte avec les $2000.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille ce matin Christian Fontaine et Stéphane Van Uffel. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric. Bonjour
à tous. Notre rencontre à trois mensuelle. Christian pour la rédaction du Revenu. Stéphane pour netinvestissement.fr. Vous faites tous deux preuve ce matin d'une énorme originalité, puisque vous avez décidé, avec un courage et une conviction qui flirte avec le contrarisme, de trancher dans la monotonie de l'actualité et de débattre de la thématique des retraites. Quid de la préparation de la retraite ? Qu'est-ce qu'on se dit, Christian, pour débuter sur ce sujet totalement innovant ?
Alors surtout, on va pas. Alors on va quand même innover, je vous rassure, hein, parce qu'on va pas vous parler de la réforme de la retraite, on va pas vous parler de vote de censure, on va pas vous parler de grève, ni d'âge,
ni de poubelle,
ni de voilà. On va en fait essayer d'aborder de façon positive cette problématique en essayant d'aider les auditeurs et les spectateurs à préparer sur le plan financier leur vue au jour. Et donc avec Stéphane, on a décidé, on a surtout souhaité sortir la calculette et revenir un
prendre
tout petit
peu, les choses en main.
Revenir un tout petit peu. Alors, prendre les choses en main, en partant, le point de départ, c'est la réalité des chiffres. Et on vous propose en introduction deux chiffres clés. Le premier chiffre clé, c'est 50%. Quoi qu'il arrive, quel que soit le mode de calcul des pensions des régimes obligatoires dans les années à venir, quoi qu'il arrive, les rapports du corps pour ça le montrent très clairement. Aujourd'hui, un cadre qui part à la retraite, la pension versée par les régimes obligatoires ne dépasse pas 50% de son dernier salaire d'activité. Ça pique. Premier chiffre, 50%. Deuxième chiffre, pour, et là, positivement un tout petit peu, il est possible d'augmenter et de maintenir le pouvoir d'achat, maintenir votre niveau de vie à la retraite. Mais pour ça, il faut bien prendre conscience des sommes en jeu. Si vous voulez, par exemple, avoir 3000 euros de revenus en plus par mois, bon, au niveau individuel, ça peut paraître important, mais pour un couple, pas trop. Bon, pour maintenir son niveau de vie. 3000 euros, mon cher Cédric, vous sortez la calculette avec un taux de rendement espéré de votre épargne autour de 3-4%. Il vous faut quand même un capital de 1 million d'euros. Bon. Donc ça, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé avec Stéphane, c'est comment se constituer un capital significatif, notamment pour avoir 3000 euros en plus de revenus par mois. Et là, la bonne nouvelle qu'on a pour vous, c'est qu'il existe des solutions pour maintenir votre pouvoir d'achat à la retraite. Donc oui, on parle d'un sujet rabâché depuis des semaines, mais notre discours...
Oh, je vous taquinais, Christian, ne prenez pas la bouche.
Notre discours, il est fondamentalement positif, bon. Et on va vous apporter des solutions concrètes
c'est
à votre problématique.
C'est essentiel de prendre les choses en main, parce que visiblement on ne veut pas parler de capitalisation ailleurs qu'ici. Donc faisons notre capitalisation nous-mêmes, quoi, c'est ça.
Bah, de toute façon, c'est tout à fait le sujet. Le vrai sujet, c'est que je comprends que vous mettiez un petit peu d'ironie dans ce thème, mais la retraite, on doit en parler tout le temps, à n'importe quel âge, en fait, de 20 à 50 ans, 10 ans avant, on va dire grosso modo, c'est le sujet prégnant chez mes clients. Et moi, je suis obligé de rappeler constamment à mes clients que quoi qu'ils fassent, il y a toujours une vision de préparer ses vieux jours. Donc c'est un sujet qui est évidemment présent. Et justement, Cédric, par rapport à ce que dit Christian, pour bien préparer cette retraite dans le cadre de l'arrivée de cette nouvelle réforme énième et qui ne sera pas la dernière, on va se le dire, et c'est là-dessus que je vais fermer le sujet, parce qu'on n'est pas là pour parler d'actualité.
Non, on est d'accord.
Il y a des bases à respecter. Et ces bases-là, ça me fait penser à ça parce que je parle d'âge. La première des bases qu'il faut avoir quand on fait de la gestion de patrimoine et qu'on prépare sa retraite, c'est le temps. Il faut se fixer très tôt, très vite, un projet, un objectif. Est-ce que c'est un objectif d'âge, parce que ça pourrait être le sujet, ou ce que l'on a choisi avec Christian ce matin, un objectif de montant.
De revenu.
Mais évidemment, un montant d'un million, si je vous le mets comme ça et qu'on le dit comme ça ce matin, les gens vont se dire, bah, ils sont mignons tous les deux, mais un million. Oui, mais un million. Si on a 25 ans, c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable sans partir dans les tours. Pourquoi ? Parce que deuxième base, il faut investir de façon progressive. Ça veut dire qu'évidemment, à 25 ans, on n'a pas les mêmes moyens qu'à 45 ans pour épargner. L'important, c'est de commencer tôt et de faire de l'investissement progressif par des formes d'épargne, soit mensuelles, soit trimestrielles, soit des versements de temps en temps, ponctuels, mais de façon constamment progressive.
Régulière.
Voilà, garder un pourcentage de ce qu'on gagne, on le reverse pour sa retraite. Et le troisième base, c'est la prise de risque dégressive. Vous savez que c'est un cheval de bataille. On peut prendre beaucoup plus de risques quand on est plus jeune, surtout quand on met des épargnes moins fortes. Et cette notion d'investir de façon progressive, en baissant le risque plus on vieillit, ben normalement, on arrive sans trop de difficultés, même avec des fluctuations de la volatilité des accidents, à un montant qui pourrait être assez significatif pour avoir à peu près les revenus dont parlait Christian.
Alors, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les bases d'une bonne préparation de sa retraite ?
Alors, il faut rebondir sur ce que vient de dire Stéphane. C'est tout à fait vrai. Le principal effet de levier, il n'est pas fiscal. Il n'est pas sur les produits. Le principal effet de levier pour préparer votre retraite, c'est effectivement le temps. Il faut commencer à épargner pour sa retraite jeune. Alors, on ne va pas être caricatural. On dit souvent, il faut commencer à épargner le jour où on rentre dans la vie active. C'est totalement caricatural puisque personne ne pense à ses vieux jours à 25 ans.
Mais on devrait.
Mais 35 ans, ça peut suffire. Et je vais vous donner quelques chiffres. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer à épargner jeune ? Parce que plus vous commencez à épargner jeune, plus l'effort à fournir est faible. Et justement, pour atteindre ce fameux million à 65 ans, si vous commencez, on va dire avec un capital de départ de 15 000 euros, vous commencez à épargner à 25 ans, il vous suffit, entre guillemets, d'épargner 150 euros par mois sur un placement qui rapporte 9%, mais on va en parler. Si vous commencez à épargner à 35 ans, toujours pour avoir le fameux million, c'est plus 150 euros, c'est 500 euros. Et si vous commencez à épargner à 45 ans, toujours pour avoir le million, c'est plus 150 euros, c'est plus 500 euros, c'est 1500 euros.
Par mois.
Donc, par mois. Donc, il est vraiment important. Alors, pourquoi, en fait? C'est tout simplement parce que derrière cet effet temps, il y a ce qu'on appelle, ce que Einstein avait appelé, ou prédent du monde, ce qui est mis dans sa bouche, la huitième merveille du monde, c'est-à-dire les intérêts composés. Et qui vous font, vous savez, hein, quand vous placez 100 euros à 5%, la première année, vous gagnez 5 euros, puis la deuxième année, les 5%, ils sont pas calculés sur 100 euros, mais sur 100 plus 5, le gain de la première année, donc comme ça, vous gagnez un peu plus de 5%. Et il faut savoir que cet effet exponentiel des intérêts composés, cet effet boule de neige est exponentiel avec le temps. C'est pour ça qu'il est très important pour profiter de cet effet mathématique. Si vous voulez le million à 65 ans et pouvoir peu ou prou profiter de 3000 euros de revenus complémentaires par mois sans manger votre capital, c'est vrai qu'il faut épargner, comme disait Stéphane, il faut épargner régulièrement et commencer de préférence le plus tôt possible.
Stéphane, comment on fait pour bien, enfin, avoir les bonnes bases?
Sur la base de ce que je disais, à partir du moment où vous faites un investissement progressif et que vous voulez utiliser des leviers, et c'est ce que vient de rappeler Christian, je vais vous donner deux exemples très concrets. Si vous prenez le plan d'épargne retraite, qui est donc le produit par excellence aujourd'hui pour la retraite. On va bien sûr appuyer sur le fait que vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque comme c'est comme un contrat d'assurance vie, on va le dire comme ça, vous pouvez calibrer votre effort d'épargne comme vous voulez, soit mensuellement, etc., etc. Donc là déjà, il y a toute cette flexibilité dont je parlais. Ensuite, il y a les intérêts composés, c'est le principe. Puisque l'argent reste dans une enveloppe fiscale à terme, bah finalement, vous ne faites que composer des intérêts les uns sur les autres, plus le capital de départ et d'éventuels gains surprises quand il y a des plus-values, etc. Bon, puis le troisième effet, c'est que le plan épargne retraite, comme vous avez cet avantage fiscal, que ce que vous versez dessus est déductible, quelque part, c'est une partie de vos impôts qui permet d'avoir un effet de levier complémentaire. Donc voilà, par exemple, dans les bases de l'investissement à terme, plus vous le faites tôt et plus vous utilisez ces mécanismes, non seulement vous allez mettre un capital de départ et un effort d'épargne, mais les mécaniques qui sont les intérêts composés ou la défiscalisation que vous pouvez réinvestir l'année d'après quand vous l'avez touché, vous permet de vous enrichir, pas avec l'argent des autres, je n'aime pas ce terme, mais en utilisant des leviers. Même chose pour l'immobilier, pour vous donner un deuxième exemple, l'intérêt de l'immobilier, même si les taux sont montés et qu'on a peut-être plus d'inquiétude aujourd'hui sur cet effet de levier, pendant très longtemps, il était intéressant d'investir à très long terme en immobilier et donc d'emprunter tôt, parce qu'en fait, vous utilisiez l'argent de la banque pour pouvoir, grâce à des loyers qui restent encore aujourd'hui supérieurs au taux d'emprunt, utiliser cet effet de levier dans le temps. Et en plus, aujourd'hui, avec une inflation qui est forte, votre taux fixe, plus l'inflation monte, moins votre taux vous coûte cher, finalement, dans votre raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce sont des mécaniques qui reposent sur une seule chose dans tous les temps. Ayez du temps, prenez du temps, donnez-vous un objectif et donnez-vous du temps pour atteindre cet objectif.
Dans les produits, donc le PER, quoi d'autre ? Enfin, on met tout. Alors, sur
l'immobilier, non, mais effectivement, la question du sous-jacent...
Vous aimez bien la résidence principale, quand même.
Ah oui, bien sûr, il faut devenir propriétaire de sa résidence principale, ça, on en a parlé largement la semaine dernière. Mais donc Stéphane parle de sous-jacent, ça peut être l'immobilier, mais effectivement, au revenu, on met plutôt le sous-jacent action en évidence. Parce que
vous nous disiez 9%, c'est pas
alors,
rien.
Voilà, justement, c'est toute la bonne question.
Le chiffre, quel, là, comme ça, oui, on met ça sur un produit à 9%.
Alors, non, oui.
Ok, tout le monde voit son...
Non, mais vous me cherchez là-dessus, vous avez raison. Parce que
non, parce qu'après, vous allez me faire des questions d'éditeurs en disant oui, on m'a proposé un produit à 9%, est-ce que c'est pipo ?
C'est pas pipo du tout. 9%, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'il faut mettre ça sur un placement, évidemment, qui rapporte. 9%, on va le dire, là, c'est moins que la hausse moyenne des bourses mondiales, donc alors depuis 10 ans, mesurée par la hausse de l'indice MSCI Worldwide, investi dans 23 pays et 1500 valeurs. Donc effectivement, la solution, ça consiste à investir, à réduire le risque au maximum. Donc pour réduire le risque au maximum et profiter peu ou prou de la tendance haussière des actions sur le long terme, le conseil du revenu, c'est de placer 50% de son épargne retraite sur un produit financier qui va répliquer peu ou prou la performance de l'indice MSCI Worldwide, qui a été le meilleur placement, quasiment toute gamme confondue, toute famille de placements confondue depuis ces 10 dernières années, avec un gain moyen, le MSCI Worldwide en euros, qui est supérieur à 10%. Donc ça a été le jackpot. La vraie question qui se pose, c'est qu'évidemment, les gains passés...
C'est que les performances passées
ne présagent pas des performances futures.
Marqué en petites lettres partout, merci. Y compris sur Christian Fontaine.
Merci de l'avoir rappelé. Donc en fait, ça serait trop simple que de dire qu'au cours des 10 prochaines années, le meilleur placement retraite, ça sera l'indice MSCI Worldwide. Donc 50% là-dessus, et puis 50% sur d'autres produits qui sélectionnés par le revenu, voire nos bandes d'essai.
Bon,
c'est un peu facile, mais...
Mais du temps.
Ouais,
du temps. Ce que dit Christian, si vous avez du temps, ça arrivera à tous les coups.
Allez, voilà, vous voyez, on peut parler de retraite sans parler de poubelle, de 49.3 et de énième.
Et de motion de censure.
Anti-pénultième réforme et de motion de censure.
On vous retrouve tous les deux tout à l'heure. Constance et un peu de chance.
On vous retrouve tous les deux tout à l'heure. Pour répondre aux questions des auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Allez, les marchés, pour le moment, ils reprennent quelques couleurs. On va voir ce qui se passe justement dans une salle de marché. Thibaut François nous attend. On le retrouve dans un instant. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.